Camille y parla longtemps et très éloquemment, mais ce dernier effort fut inutile. Elle se tut à un geste par lequel Calliste exprima son entière croyance en Béatrix. Elle le força de descendre et d'assister à son dîner, car il lui fut impossible de manger. Il n'y a que pendant l'extrême jeunesse que ces contradictions ont lieu. Plus tard, les organes ont pris leurs habitudes et se sont comme endurcis. La réaction du moral sur le physique n'est assez forte pour déterminer une maladie mortelle que si le système a conservé sa primitive délicatesse. Un homme résiste à un chagrin violent qui tue un jeune homme, moins par la faiblesse de l'affection que par la force des organes. Aussi Mademoiselle des Touches fut-elle tout d'abord effrayée de l'attitude calme et résignée que prit Calliste après sa première effusion de larmes. Avant de la quitter, il voulut revoir la chambre de Béatrix et alla se plonger la tête sur l'oreiller où la sienne avait reposé. « Je fais des folies, » dit-il, en donnant une poignée de main à Camille et la quittant avec une profonde mélancolie. Il revint chez lui, trouva la compagnie ordinaire occupée à faire la mouche et resta pendant toute la soirée auprès de sa mère. Le curé, le chevalier du Halga, Mademoiselle de Penwell, savaient le départ de Madame de Rochegude, et tous, ils en étaient heureux, Calliste allait leur revenir. Aussi tous l'observaient-ils presque sournoisement en le voyant un peu taciturne. Personne dans ce vieux manoir ne pouvait imaginer la fin de ce premier amour dans un cœur aussi naïf, aussi vrai que celui de Calliste. Pendant quelques jours, Calliste alla régulièrement aux Touches. Il tournait autour du gazon où il s'était quelquefois promené donnant le bras à Béatrix. Souvent, il poussait jusqu'au croisic et gagnait la roche d'où il avait essayé de la précipiter dans la mer. Il restait quelques heures couché sur le buis, car, en étudiant les points d'appui qui se trouvaient à cette cassure, il s'était appris à y descendre et à y remonter. Ses courses solitaires, son silence et sa sobriété finirent par inquiéter sa mère. Après une quinzaine de jours pendant lesquels dura ce manège, assez semblable à celui d'un animal dans une cage, la cage de cet amoureux au désespoir était, selon l'expression de La Fontaine, les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux de Béatrix. Calliste cessa de passer le petit bras de mer, il ne se sentit plus que la force de se traîner jusqu'au chemin de Guérande, à l'endroit d'où il avait aperçu Béatrix à la croisée. La famille, heureuse du départ des Parisiens, pour employer le mot de la province, n'apercevait rien de funeste ni de maladif chez Calliste. Les deux vieilles filles et le curé, poursuivant leur plan, avaient retenu Charlotte de Kergarouët, qui, le soir, faisait ses agaceries à Calliste et n'obtenait de lui que des conseils pour jouer à la mouche. Pendant toute la soirée, Calliste restait entre sa mère et sa fiancée bretonne, observé par le curé, par la tante de Charlotte, qui devisait sur son plus ou moins d'abattement en retournant chez eux. Ils prenaient l'indifférence de ce malheureux enfant pour une soumission à leur projet. Par une soirée où Calliste, fatigué, s'était couché de bonne heure, chacun laissa ses cartes sur la table et tous se regardèrent au moment où le jeune homme ferma la porte de sa chambre. On avait écouté le bruit de ses pas avec anxiété. « Calliste a quelque chose, » dit la baronne en s'essuyant les yeux. « Il n'a rien, » répondit Mademoiselle de Penwell. « Il faut le marier promptement. »« Vous croyez que cela le divertira ?» dit le chevalier. Charlotte regarda sévèrement Monsieur du Halga, qu'elle trouva le soir de très mauvais ton, immoral, dépravé, sans religion, ridicule avec sa chienne, malgré les observations de sa tante, qui défendit le vieux marin. « Demain matin, je chapitrerai Calliste, » dit le baron, que l'on croyait endormi. « Je ne voudrais pas m'en aller de ce monde sans avoir vu mon petit-fils, un Duguesnic blanc et rose, coiffé d'un béguin breton dans son berceau. »« Il ne dit pas un mot, » dit la vieille Zéphirine. « On ne sait ce qu'il a. Jamais il n'a moins mangé. » « De quoi vit-il? S'il se nourrit aux Touches, la cuisine du diable ne lui profite guère. »« Il est amoureux, » dit le chevalier, en risquant cette opinion avec une excessive timidité. « Allons, vieux Roquentin, vous n'avez pas mis au panier, » dit Mademoiselle de Penwell. « Quand vous pensez à votre jeune temps, vous oubliez tout. »« Venez déjeuner avec nous demain matin, » dit la vieille Zéphirine à Charlotte et à Jacqueline. « Mon frère raisonnera son fils, et nous conviendrons de tout, un clou chasse l'autre. » « Pas chez les Bretons, » dit le chevalier. Le lendemain, Calliste vit venir Charlotte, mise dès le matin avec une recherche extraordinaire, au moment où le baron achevait dans la salle à manger un discours matrimonial auquel il ne savait que répondre. Il connaissait l'ignorance de sa tante, de son père, de sa mère et de leurs amis. Il récoltait les fruits de l'arbre de science, il se trouvait dans l'isolement et ne parlait plus la langue domestique. Aussi demanda-t-il seulement quelques jours à son père, qui se frotta les mains de joie et rendit la vie à la baronne en lui disant à l'oreille la bonne nouvelle. Le déjeuner fut gai. Charlotte, à qui le baron avait fait un signe, fut sémillante. Dans toute la ville filtra par Gasselin la nouvelle d'un accord entre les Duguesnic et les Kergarouët. Après le déjeuner, Calliste sortit par le perron de la grande salle et alla dans le jardin où le suivit Charlotte. Il lui donna le bras et l'emmena sous la tonnelle au fond. Les grands-parents étaient à la fenêtre et les regardaient avec une espèce d'attendrissement. Charlotte se retourna vers la jolie façade, assez inquiète du silence de son promis, et profita de cette circonstance pour entamer la conversation en disant à Calliste « Ils nous examinent ». « Ils ne nous entendent pas », répondit-il. « Oui, mais ils nous voient ». « Asseyons-nous, Charlotte ?» répliqua doucement Calliste en la prenant par la main. « Est-il vrai qu'autrefois votre bannière flottait sur cette colonne tordue ?» demanda Charlotte en contemplant la maison comme sienne. « Elle y ferait bien. Comme on serait heureux, là. Vous changerez quelque chose à l'intérieur de votre maison, n'est-ce pas, Calliste ?»« Je n'en aurai pas le temps, ma chère Charlotte, » dit le jeune homme en lui prenant les mains et les lui baisant. « Je vais vous confier mon secret. » J'aime trop une personne que vous avez vue et qui m'aime pour pouvoir faire le bonheur d'une autre femme. Et je sais que, depuis notre enfance, on nous avait destinés l'un à l'autre. « Mais elle est mariée, Calliste, » dit Charlotte. « J'attendrai, » répondit le jeune homme. « Et moi aussi, » dit Charlotte, les yeux pleins de larmes. « Vous ne sauriez aimer longtemps cette femme qui, dit-on, a suivi un chanteur. »« Mariez-vous, ma chère Charlotte, » reprit Calliste. Avec la fortune que vous destine votre tante et qui est énorme en Bretagne, vous pourrez choisir mieux que moi. Vous trouverez un homme titré. Je ne vous ai pas pris à part pour vous apprendre ce que vous savez, mais pour vous conjurer au nom de notre amitié d'enfance de prendre sur vous la rupture et de me refuser. Dites que vous ne voulez point d'un homme dont le cœur n'est pas libre, et ma passion aura servi du moins à ne vous faire aucun tort. Vous ne savez pas combien la vie me pèse. Je ne puis supporter aucune lutte. Je suis affaiblie comme un homme quitté par son âme, par le principe même de sa vie. Sans le chagrin que ma mort causerait à ma mère et à ma tante, je me serais déjà jetée à la mer, et je ne suis plus retournée dans les roches du Croisic depuis le jour où la tentation devenait irrésistible. Ne parlez pas de ceci. Adieu, Charlotte. » Il prit la jeune fille par le front, l'embrassa sur les cheveux, sortit par l'allée qui aboutissait au pignon, et se sauva chez Camille, où il resta jusqu'au milieu de la nuit. En revenant à 1 heure du matin, il trouva sa mère, occupée à sa tapisserie et l'attendant. Il entra doucement, lui serra la main et lui dit « Charlotte est-elle partie ? Elle part demain avec sa tante, au désespoir toutes deux. « Viens en Irlande, mon Calliste, » dit-elle. « Combien de fois ai-je pensé à m'y enfuir ? » dit-il. « Ah ! » s'écria la baronne. « Avec Béatrix, » ajouta-t-il. Quelques jours après le départ de Charlotte, Calliste accompagnait le chevalier du Halga pendant sa promenade au Mel. Il s'y asseyait au soleil sur un banc d'où ses yeux embrassaient le paysage depuis les girouettes des touches jusqu'au récif que lui indiquaient ses lames écumeuses qui se jouent au-dessus des écueils à la marée. En ce moment, Calliste était maigre et pâle, ses forces diminuaient, il commençait à ressentir quelques petits frissons réguliers qui dénotaient la fièvre. Ses yeux cernés avaient cet éclat que communique une pensée fixe au solitaire, ou l'ardeur du combat, ou hardi lutteur de notre civilisation actuelle. Le chevalier était la seule personne avec laquelle il échangea quelques idées. Il avait deviné dans ce vieillard un apôtre de sa religion et reconnu chez lui les vestiges d'un éternel amour. « Avez-vous aimé plusieurs femmes dans votre vie ?» lui demanda-t-il la seconde fois qu'ils firent, selon l'expression du marin, voile de conserve au mail. « Une seule, » répondit le capitaine du Halga. « Était-elle libre ?»« Non, » fit le chevalier. « Ah, j'ai bien souffert, car elle était la femme de mon meilleur ami, de mon protecteur, de mon chef, mais nous nous aimions tant. »« Elle vous aimait, » dit Calliste. « Passionnément, » répondit le chevalier, avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire. « Vous avez été heureux ?»« Jusqu'à sa mort, elle est morte à 49 ans, en émigration à Saint-Pétersbourg. Le climat l'a tuée. Elle doit avoir bien froid dans son cercueil. » J'ai bien souvent pensé à l'aller chercher pour la coucher dans notre chère Bretagne, près de moi, mais elle gît dans mon cœur. » Le chevalier s'essuya les yeux, Calliste lui prit les mains et les lui serra. « Je tiens plus à cette chienne, » dit-il en montrant Thisbé, « qu'à ma vie. cette petite est en tout point semblable à celle qu'elle caressait de ses belles mains et qu'elle prenait sur ses genoux. Je ne regarde jamais Thisbé sans voir les mains de Madame l'Amiral. « Avez-vous vu Madame de Rochegude ?» dit Caliste au chevalier. « Non, répondit le chevalier. Il y a maintenant 58 ans que je n'ai fait attention à aucune femme, excepté votre mère, qui a quelque chose dans le teint de Madame l'Amiral. » 3 jours après, le chevalier dit sur le mail à Caliste. « Mon enfant, j'ai pour tout bien 140 louis. Quand vous saurez où est Madame de Rochegude, vous viendrez les prendre chez moi pour aller la voir. » Caliste remercia le vieillard, dont l'existence lui faisait envie. Mais de jour en jour, il devint plus morose. Il paraissait n'aimer personne. Il semblait que tout le monde le blessât. Il ne restait doux et bon que pour sa mère. La baronne suivait avec une inquiétude croissante les progrès de cette folie. Elle seule obtenait, à force de prières, que Caliste prît quelque nourriture. Vers le commencement du mois d'octobre, le jeune malade cessa d'aller au mail en compagnie du chevalier, qui venait inutilement le chercher pour la promenade en lui faisant des agaceries de vieillard. « Nous parlerons de Madame de Rochegude, disait-il. Je vous raconterai ma première aventure. » « Votre fils est bien malade, dit à la baronne le chevalier du Helga, le jour où ses instances furent inutiles. » Caliste répondait à toutes les questions qu'il se portait à merveille, et comme tous les jeunes mélancoliques, il prenait plaisir à savourer la mort. Mais il ne sortait plus de la maison. Il demeurait dans le jardin, se chauffait au pâle et tiède soleil de l'automne sur le banc, seul avec sa pensée, et il fuyait toute compagnie. Depuis le jour où Caliste n'alla plus chez elle, Félicité pria le curé de Guérande de la venir voir. L'assiduité de l'abbé Grimont, qui passait aux touches presque toutes les matinées, et qui parfois y dîna, devint une grande nouvelle. Il en fut question dans tout le pays, et même à Nantes. Néanmoins, il ne manqua jamais une soirée à l'hôtel du Guénic, où régnait la désolation. Maîtres et gens, tous étaient affligés de l'obstination de Caliste, sans le croire en danger. Il ne venait dans l'esprit d'aucune de ces personnes que ce pauvre jeune homme pût mourir d'amour. Le chevalier n'avait aucun exemple d'une pareille mort dans ses voyages ou dans ses souvenirs. Tous attribuaient la maigreur de Caliste au défaut de nourriture. Sa mère se mit à genoux en le suppliant de manger. Caliste s'efforça de vaincre sa répugnance pour plaire à sa mère. La nourriture prise à contre-cœur accéléra la petite fièvre lente qui dévorait ce beau jeune homme. Dans les derniers jours d'octobre, l'enfant chéri ne remontait plus se coucher au second. Il avait son lit dans la salle basse et il y restait la plupart du temps au milieu de sa famille, qui eut enfin recours au médecin de Guérande. Le docteur essaya de couper la fièvre avec du quinine et la fièvre céda pour quelques jours. Le médecin avait ordonné de faire faire de l'exercice à Caliste et de le distraire. Le baron retrouva quelque force et sortit de son apathie. Il devint jeune quand son fils se faisait vieux. Il emmena Caliste, Gasselin et ses 2 beaux chiens de chasse. Caliste obéit à son père et pendant quelques jours tous 3 chassèrent. Ils allèrent en forêt, ils visitèrent leurs amis dans les châteaux voisins. Mais Caliste n'avait aucune gaieté. Personne ne pouvait lui arracher un sourire. Son masque livide et contracté trahissait un être entièrement passif. Le baron, vaincu par la fatigue, tomba dans une horrible lassitude et fut obligé de revenir au logis, ramenant Caliste dans le même état. Quelques jours après leur retour, le père et le fils furent si dangereusement malades qu'on fut obligé d'envoyer chercher, sur la demande même du médecin de Guérande, les 2 plus fameux docteurs de Nantes. Le baron avait été comme foudroyé par le changement visible de Caliste. Doué de cette effroyable lucidité que la nature donne aux moribonds, il tremblait comme un enfant de voir sa race s'éteindre. Il ne disait mot, il joignait les mains, priait Dieu sur son fauteuil où le clouait sa faiblesse. Il était tourné vers le lit occupé par Caliste et le regardait sans cesse. Au moindre mouvement que faisait son enfant, il éprouvait une vive commotion, comme si le flambeau de sa vie en était agité. La baronne ne quittait plus cette salle, où la vieille Zéphirine tricotait au coin de la cheminée dans une inquiétude horrible. On lui demandait du bois, car le père et le fils avaient également froid. On attaquait ses provisions. Aussi avait-elle pris le parti de livrer ses clés, n'étant plus assez agile pour suivre Mariotte. Mais elle voulait tout savoir. Elle questionnait à voix basse Mariotte et sa belle-sœur à tout moment. Elle les prenait à part, afin de connaître l'état de son frère et de son neveu. Quand un soir, pendant un assoupissement de Caliste et de son père, la vieille demoiselle de Penwell lui eut dit que sans doute il fallait se résigner à voir mourir le baron, dont la figure était devenue blanche et prenait des tons de cire. Elle laissa tomber son tricot, fouilla dans sa poche, en sortit un vieux chapelet de bois noir, et se mit à le dire avec une ferveur qui rendit à sa figure antique et desséchée une splendeur si vigoureuse que l'autre vieille fille imita son amie. Puis tous, à un signe du curé, se joignirent à l'élévation mentale de mademoiselle du Guénic. « J'ai prié Dieu la première, dit la baronne, en se souvenant de la fatale lettre écrite par Calyste. Il ne m'a pas exaucée. Peut-être ferions-nous bien, dit le curé Grimont, de prier mademoiselle des Touches de venir voir Calyste. Elle, s'écria la vieille Zéphirine, l'auteur de tous nos maux, elle qui l'a diverti de sa famille, qui nous l'a enlevé, qui lui a fait lire des livres impies, qui lui a appris un langage hérétique. Qu'elle soit maudite, et puisse Dieu ne lui pardonner jamais. Elle a brisé les du Guénic. » Elle les relèvera peut-être, dit le curé d'une voix douce. C'est une sainte et une vertueuse personne. Je suis son garant. Elle n'a que de bonnes intentions pour lui. Puisse-t-elle être à même de les réaliser? Avertissez-moi le jour où elle mettra les pieds ici. J'en sortirai, s'écria la vieille. Elle a tué le père et le fils. Croyez-vous que je n'entende pas la voix faible de Calyste? À peine a-t-il la force de parler. Ce fut en ce moment que les trois médecins entrèrent. Ils fatiguèrent Calyste de questions. Mais quant au père, l'examen dura peu. Leur conviction fut complète en un moment. Ils étaient surpris qu'il vécût encore. Le médecin de Guérande annonça tranquillement à la baronne que, relativement à Calyste, il fallait probablement aller à Paris consulter les hommes les plus expérimentés de la science, car il en coûterait plus de 100 louis pour leur déplacement. « On meurt de quelque chose, mais l'amour ce n'est rien, » dit mademoiselle de Penwell. « Hélas, quelle que soit la cause, Calyste meurt, » dit la baronne. « Je reconnais en lui tous les symptômes de la consomption, la plus horrible des maladies de mon pays. »« Calyste meurt, » dit le baron, en ouvrant les yeux d'où sortirent deux grosses larmes qui cheminèrent lentement, retardées par les plis nombreux de son visage et restèrent au bas de ses joues, les deux seules larmes qu'il eut sans doute versées de toute sa vie. Il se dressa sur ses jambes, il fit quelques pas vers le lit de son fils, lui prit les mains, le regarda. « Que voulez-vous, mon père ? » lui dit-il. « Que tu vives ! » s'écria le baron. « Je ne saurais vivre sans Béatrix, » répondit Calyste au vieillard, qui tomba sur son fauteuil. « Où trouver 100 louis pour faire venir les médecins de Paris ? Il est encore temps, dit la baronne. « 100 louis !» s'écria Zéphirine. « Le sauverait-on ? » Sans attendre la réponse de sa belle-sœur, la vieille fille passa ses mains par l'ouverture de ses poches et défit son jupon de dessous qui rendit un son lourd en tombant. Elle connaissait si bien les places où elle avait cousu ses louis qu'elle les décousut avec une promptitude qui tenait de la magie. Les pièces d'or tombaient une à une sur sa jupe en sonnant. La vieille Penwell la regardait faire en manifestant un étonnement stupide. « Mais il vous voit !» dit-elle à l'oreille de son amie. « 37 !» répondit Zéphirine en continuant son compte. « Tout le monde saura votre compte !»« 42 !»« Des doubles louis, tous neufs. Où les avez-vous eus, vous qui n'y voyez pas clair ?»« Je les tâtais. Voici 104 louis !» s'écria Zéphirine. « Sera-ce assez ?»« Que vous arrive-t-il » demanda le chevalier du Halga qui survint et ne put s'expliquer l'attitude de sa vieille amie tendant sa jupe pleine de louis. En deux mots, mademoiselle de Penwell expliqua l'affaire au chevalier. « Je l'ai su, dit-il, et venais vous apporter 140 louis que je tenais à la disposition de Calyste. Il le sait bien. » Le chevalier tira de sa poche 2 rouleaux et les montra. Mariotte, en voyant ses richesses, dit à Gasselin de fermer la porte. « L'or ne lui rendra pas la santé, dit la baronne en pleurs. « Mais il lui servira peut-être à courir après sa marquise, répondit le chevalier. « Allons, Calyste !» Calyste se dressa sur son séant et s'écria joyeusement. « En route !» « Il vivra donc, » dit le baron d'une voix douloureuse. « Je puis mourir. Allez chercher le curé. » Ce mot répandit l'épouvante. Calyste, en voyant pâlir son père, atteint par les émotions cruelles de cette scène, ne put retenir ses larmes. Le curé, qui savait l'arrêt porté par les médecins, était allé chercher mademoiselle des Touches, car autant il avait eu de répugnance pour elle, autant il manifestait en ce moment d'admiration. Et il la défendait comme un pasteur doit défendre une de ses ouailles préférées. À la nouvelle de l'état désespéré dans lequel était le baron, il y eut une foule dans la ruelle. Les paysans, les paludiers et les gens de Guérande s'agenouillèrent dans la cour, pendant que l'abbé Grimont administrait le vieux guerrier breton. Toute la ville était émue de savoir le père mourant auprès de son fils malade. On regardait comme une calamité publique l'extinction de cette antique race bretonne. Cette cérémonie frappa Caliste. Sa douleur fit taire pendant un moment son amour. Il demeura, durant l'agonie de l'héroïque défenseur de la monarchie, agenouillé, regardant les progrès de la mort et pleurant. Le vieillard expira dans son fauteuil, en présence de toute la famille assemblée. « Je meurs fidèle au roi et à la religion. Mon Dieu, pour prix de mes efforts, faites que Caliste vive, » dit-il. « Je vivrai, mon père, et je vous obéirai, » répondit le jeune homme. « Si tu veux me rendre la mort aussi douce que Fanny m'a fait ma vie, jure-moi de te marier. Je vous le promets, mon père. » Ce fut un touchant spectacle que de voir Caliste, ou plutôt son apparence, appuyé sur le vieux chevalier du Halga, un spectre conduisant une ombre, suivant le cercueil du baron et menant le deuil. L'église et la petite place qui se trouve devant le portail furent pleines de gens accourus de plus de 10 lieues à la ronde. La baronne et Zéphirine furent plongées dans une vive douleur, en voyant que malgré ses efforts pour obéir à son père, Caliste restait dans une stupeur de funeste augure. Le jour où la famille prit le deuil, la baronne avait conduit son fils sur le banc au fond du jardin et le questionnait. Caliste répondait avec douceur et soumission, mais ses réponses étaient désespérantes. « Ma mère, disait-il, il n'y a plus de vie en moi. Ce que je mange ne me nourrit pas. L'air en entrant dans ma poitrine ne me rafraîchit pas le sang. Le soleil me semble froid, et quand il illumine pour toi la façade de notre maison, comme en ce moment, là où tu vois les sculptures inondées de lueurs, moi, je vois des formes indistinctes, enveloppées d'un brouillard. Si Béatrix était ici, tout redeviendrait brillant. Il n'est qu'une seule chose au monde qui ait sa couleur et sa forme, c'est cette fleur et ce feuillage, dit-il en tirant de son sein et montrant le bouquet flétri que lui avait laissé la marquise. La baronne n'osa plus rien demander à son fils. Ses réponses accusaient plus de folie que son silence n'annonçait de douleur. Cependant Caliste tressaillit, en apercevant Mademoiselle des Touches à travers les croisées qui se correspondaient. Félicité lui rappelait Béatrix. Ce fut donc à Camille que ces deux femmes désolées durent le seul mouvement de joie qui brilla au milieu de leur deuil. « Eh bien, Caliste, » dit Mademoiselle des Touches en l'apercevant, « la voiture est prête. Nous allons chercher Béatrix ensemble. Venez. » La figure maigre et pâle de ce jeune homme en deuil fut aussitôt nuancée par une rougeur et un sourire anima ses traits. « Nous le sauverons, » dit Mademoiselle des Touches à la mère, qui lui serra la main et pleura de joie. Mademoiselle des Touches, la baronne du Guénic et Caliste partirent pour Paris 8 jours après la mort du baron, laissant le soin des affaires à la vieille Zéphirine. La tendresse de Félicité pour Caliste avait préparé le plus bel avenir à ce pauvre enfant. Allié à la famille de Grandlieu, où se trouvaient 2 charmantes filles à marier, les 2 plus ravissantes fleurs du faubourg Saint-Germain, elle avait écrit à la duchesse de Grandlieu l'histoire de Caliste, en lui annonçant qu'elle vendait sa maison de la rue du Mont-Blanc, de laquelle quelques spéculateurs offraient 2 500 000 francs. Son homme d'affaires venait de lui remplacer cette habitation par l'un des plus beaux hôtels de la rue de Grenelle, acheté 700 000 francs. Sur le reste du prix de sa maison de la rue du Mont-Blanc, elle consacrait 1 000 000 au rachat des terres de la maison du Guénic et disposait de toute sa fortune en faveur de celle des 2 demoiselles de Grandlieu qui guériraient Caliste de sa passion pour Madame de Rochegude. Pendant le voyage, Félicité mit la baronne au fait de ses arrangements. On meublait alors l'hôtel de la rue de Grenelle, qu'elle destinait à Caliste, au cas où ses projets réussiraient. Tous 3 descendirent alors à l'hôtel de Grandlieu, où la baronne fut reçue avec toute la distinction que lui méritait son nom de femme et de fille. Mademoiselle des Touches conseilla naturellement à Caliste de voir Paris pendant qu'elle y chercherait à savoir où se trouvait en ce moment Béatrix, et elle le livra aux séductions de toute espèce qui l'y attendaient. La duchesse, ses 2 filles et leurs amis firent à Caliste les honneurs de Paris au moment où la saison des fêtes allait commencer. Le mouvement de Paris donna de violentes distractions au jeune Breton. Il trouva dans Sabine de Grandlieu, qui certes était alors la plus belle et la plus charmante fille de la société parisienne, une vague ressemblance avec Madame de Rochegude, et il prêta dès lors à ses coquetteries une attention que nulle autre femme n'aurait obtenue de lui. Sabine de Grandlieu joua d'autant mieux son rôle que Caliste lui plut infiniment, et les choses furent si bien menées que pendant l'hiver de 1837, le jeune baron du Guénic, qui avait repris ses couleurs et sa fleur de jeunesse, entendit sans répugnance sa mère lui rappeler la promesse faite à son père mourant et parler de son mariage avec Sabine de Grandlieu. Mais, tout en obéissant à sa promesse, il cachait une indifférence secrète que connaissait la baronne et qu'elle espérait voir se dissiper par les plaisirs d'un heureux ménage. Le jour où la famille de Grandlieu et la baronne, accompagnée en cette circonstance de ses parents venus d'Angleterre, siégeaient dans le grand salon à l'hôtel de Grandlieu, et que Léopold Hannequin, le notaire de la famille, expliquait le contrat avant de le lire, Calyste, sur le front de qui chacun pouvait voir quelques nuages, refusa nettement d'accepter les avantages que lui faisait Mademoiselle des Touches. Il comptait encore sur le dévouement de Félicité qu'il croyait à la recherche de Béatrix. En ce moment, et au milieu de la stupéfaction des deux familles, Sabine entra, vêtue de manière à rappeler la marquise de Rochegude, et remit la lettre suivante à Calyste. Camille à Calyste. Calyste, avant d'entrer dans ma cellule de novice, il m'est permis de jeter un regard sur le monde que je vais quitter pour m'élancer dans le monde de la prière. Ce regard est entièrement à vous, qui, dans ces derniers temps, avez été pour moi tout le monde. Ma voix arrivera, si mes calculs ne m'ont point trompé, au milieu d'une cérémonie à laquelle il m'était impossible d'assister. Le jour où vous serez devant un autel, donnant votre main à une jeune et charmante fille qui pourra vous aimer à la face du ciel et de la terre, moi, je serai dans une maison religieuse à Nantes, devant un autel aussi, mais fiancée pour toujours à celui qui ne trompe et ne trahit personne. Je ne viens pas vous attrister, mais vous priez de n'entraver par aucune fausse délicatesse le bien que j'ai voulu vous faire dès que je vous vis. Ne me contestez pas des droits si chèrement conquis. Si l'amour est une souffrance, ah, je vous ai bien aimé, Calyste, mais n'ayez aucun remords. Les seuls plaisirs que j'ai goûtés dans ma vie, je vous les dois, et les douleurs sont venues de moi-même. Récompensez-moi donc de toutes ces douleurs passées, en me donnant une joie éternelle. Permettez au pauvre Camille, qui n'est plus, d'être pour un peu dans le bonheur matériel dont vous jouirez tous les jours. Laissez-moi, cher, être quelque chose comme un parfum dans les fleurs de votre vie, m'y mêler à jamais sans vous être importune. Je vous devrai sans doute le bonheur de la vie éternelle. Ne voulez-vous pas que je m'acquitte envers vous par le don de quelques biens fragiles et passagers? Manquerez-vous de générosité? Ne voyez-vous pas en ceci le dernier mensonge d'un amour dédaigné? Calyste, le monde, sans vous, n'était plus rien pour moi. Vous m'en avez fait la plus affreuse des solitudes, et vous avez amené l'incrédule Camille Maupin, l'auteur de livres et de pièces que je vais solennellement désavouer. Vous avez jeté cette fille audacieuse et perverse, pieds et poings liés devant Dieu. Je suis aujourd'hui ce que j'aurais dû être, un enfant plein d'innocence. Oui, j'ai lavé ma robe dans les pleurs du repentir, et je puis arriver aux autels présentés par un ange, par mon bien-aimé Calyste. Avec quelle douceur je vous donne ce nom que ma résolution a sanctifié. Je vous aime sans aucun intérêt propre, comme une mère aime son fils, comme l'Église aime un enfant. Je pourrais prier pour vous et pour les vôtres, sans y mêler aucun autre désir que celui de votre bonheur. Si vous connaissiez la tranquillité sublime dans laquelle je vis, après m'être élevée par la pensée, au-dessus des petits intérêts mondains, et combien est douce la pensée d'avoir fait son devoir, selon votre noble devise, vous entreriez d'un pas ferme et sans regarder en arrière, ni autour de vous, dans votre belle vie. Je vous écris donc surtout pour vous prier d'être fidèle à vous-même et aux vôtres. Cher, la société dans laquelle vous devez vivre ne saurait exister sans la religion du devoir, et vous la méconnaîtriez, comme je l'ai méconnue, en vous laissant aller à la passion, à la fantaisie, ainsi que je l'ai fait. La femme n'est égale à l'homme qu'en faisant de sa vie une continuelle offrande, comme celle de l'homme est une perpétuelle action. Or, ma vie a été comme un long accès d'égoïsme. Aussi peut-être Dieu vous a-t-il mis vers le soir, à la porte de ma maison, comme un messager chargé de ma punition et de ma grâce. Écoutez cet aveu d'une femme pour qui la gloire a été comme un phare dont la lueur lui a montré le vrai chemin. Soyez grand, immolez votre fantaisie à vos devoirs de chef, d'époux et de père. Relevez la bannière abattue des vieux du Guénic. Montrez dans ce siècle, sans religion ni principe, le gentilhomme dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Cher enfant de mon âme, laissez-moi jouer un peu le rôle d'une mère. L'adorable Fanny ne sera plus jalouse d'une fille morte au monde et de qui vous n'apercevrez plus que les mains toujours levées au ciel. Aujourd'hui, la noblesse a plus que jamais besoin de la fortune. Acceptez donc une partie de la mienne, Calliste, et faites-en un bel usage, car ce n'est pas un don, mais un fidéicommis. J'ai pensé plus à vos enfants et à votre vieille maison bretonne qu'à vous-même, en vous offrant les gains que le temps m'a procurés sur la valeur de ma maison à Paris. « Signons, dit le jeune baron.